Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Incrédulité. Alors, première observation, je vais faire quelques observations, je vais aller les lire, mais c'est que l'incrédulité ne concerne uniquement, et je vais le répéter, l'incrédulité ne concerne uniquement que les chrétiens. Ça ne concerne que les chrétiens. Ça ne concerne que les croyants. Mais jamais les païens. Jamais les païens. Nous, on serait tenté de dire, l'incrédulité, je me promène à Rouen et je vois quantité de gens incrédules. Quantité de païens, ils connaissent pas Dieu, ils croient pas. Eh bien, ça, ce sont des incrédules. Eh bien, non. Et détrompez-vous. C'est pour ça que vous allez être surpris combien Jésus parle aux apôtres. Et il leur reproche leur incrédulité. Et il ne se fait pas faute, même l'Éternel des armées, dans l'Ancien Testament, eh bien, de parler directement à son peuple et de lui reprocher aussi son incrédulité. Première chose, l'incrédulité concerne le peuple de Dieu et les croyants, et ne concerne pas du tout les incroyants. Ils ne sont pas convertis, et parce qu'ils ne se sont pas convertis, eh bien l'incrédulité ne les concerne pas. Bon, ça peut vous surprendre, ouais. Ça peut vous surprendre. Et pourtant, c'est la vérité. Je vais vous le montrer par les différents textes que nous allons lire, ou tout simplement par le rappel ou le souvenir des textes que vous connaissez, que vous pouvez éventuellement lire chez vous. Et la première chose, c'est de lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 14, il y a là un événement qui est assez particulier, surtout c'est l'attitude et la parole du père de cet enfant qui est possédé d'un esprit muet et qui dit, lorsque Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et le père de l'enfant s'écrie, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est paradoxal. Il dit, mais comment une chose pareille peut-elle se trouver dans la Bible? Comment quelqu'un peut-il dire « je crois » et puis il dit « viens au secours de mon incrédulité ». Ben c'est parce que l'incrédulité concerne effectivement le croyant. Le croyant. Et nous allons voir qu'est-ce qui est à la base aussi de l'incrédulité. Et ce sera un excellent moment ou moyen eh bien, de se remettre en question et peut-être de découvrir que vous êtes peut-être un incrédule. Ou que vous êtes une incrédule, ou que même dans l'Église, il y a plus d'incrédules qu'on ne pense. Que dans le peuple de Dieu, comme dans le peuple d'Israël, eh bien c'est là qu'il y avait les incrédules. Et que dans l'Église de Jésus-Christ, même dans l'Église primitive, c'est là qu'il y avait les incrédules. Les incrédules, ce n'étaient pas les païens. Il aurait fallu d'abord qu'ils se convertissent. Mais s'ils n'étaient pas convertis, ils ne pouvaient pas être incrédules. Et Dieu ne pouvait pas non plus leur reprocher leur incrédulité. Alors, je vais lire ce passage. Et puis, ensuite, eh bien, nous essaierons de découvrir. Et puis, peut-être que, avec ce que je viens de dire, vous avez déjà des textes qui viennent à votre esprit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, même Jésus reproche aux apôtres, après sa résurrection, leur incrédulité. Ah, c'est quand même incroyable. Alors, qu'il a vécu 3 ans avec eux, qu'il a partagé avec eux pendant 3 ans le ministère, qu'il les a prévenus qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié à Jérusalem, et que 3 jours après, il ressusciterait. Eh bien, ces choses se sont passées, elles se sont passées sous leurs yeux, et la fin de l'évangile de Marc nous dit, il leur reprocha leur incrédulité. Tout ça s'est passé. Et c'est pour ça que incrédule, c'est le seul mot qui s'adresse aux croyants. Et que Jésus, plus d'une fois, a reproché aux apôtres d'être incrédules. Alors, si ce matin le Seigneur vous reproche d'être incrédule, ne soyez pas étonnés. Et ne prenez pas ça pour une offense. Parce que il faut croire et être un mauvais croyant et même être converti pour devenir incrédule. Ce n'est seulement, et c'est seulement ceux qui sont croyants, qui se sont convertis, qui peuvent devenir incrédules. Ça vous surprend. Et moi, ça m'a surpris aussi. Ça m'a vraiment surpris. Parce que j'avais jamais fait tellement le rapport. Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, mais il faut que tu leur parles, il faut que tu leur dises. Parce que en nous, il y a toujours un incrédule qui dort et qui sommeille. Et qui ne veut qu'une chose, c'est se réveiller. Et nous, nous prions pour le réveil. Nous pouvons toujours attendre aussi longtemps que nous sommes incrédules. Faites attention à cela. Hein. Aussi longtemps que nous sommes incrédules, eh bien, tu peux prier, tu peux faire des réunions de prière, des nuits de prière, tout ça, ça ne sert à rien. Mais absolument à rien, rien, rien du tout. Mais écoutons le Seigneur qui nous parle et nous dit, tu es un incrédule. Et tu peux prier, tu peux jeûner. C'est pas moi qui vais inventer le passage. Et écoutez, vous avez Ésaïe 56 qui parle du jeûne et qui dit, voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucé, parce que vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, voyez, comme le veut ce jour, incrédule. Et il jeûnait. On peut jeûner, on peut prier, on peut louer Dieu et être complètement et totalement incrédule. On peut être comme les apôtres, témoins des choses extraordinaires que Dieu a fait. Mais quand même, moi j'aurais bien voulu voir le 10e des miracles que les apôtres ont vus lorsqu'ils étaient avec Jésus. Moi avec 10%, je m'en contente. Vous voyez, 10%, même 5%, allez, même 1%. Hein, je m'en sors. Hein, eh bien, ils ont vu tout ça. Ils ont vu sa résurrection, mais quand même, c'est quand même. Ils ont vu sa mort sur la croix. Moi, j'ai pas vu Jésus mort sur la croix. Mais eux, ils l'ont vu. Ils ont entendu les paroles. Ils ont été témoins des miracles. Et Jésus leur dit, incrédule. Et même, il ajoute à d'autres endroits, race incrédule, descendance incrédule. C'est terrible. Et est-ce que nous voulons essayer entendre cela? Et je veux que ce soit bien clair, que c'est pas moi qui vous dis incrédule, mais c'est le Seigneur. Est-ce que nous serons touchés et dire oui, c'est le Seigneur qui dit je suis un incrédule. Je suis un incrédule. C'est pas le pasteur, c'est le Seigneur qui me parle et dit tu es un incrédule. Ouais, tu es un incrédule. Et les conséquences de l'incrédulité, ben on les connaît. C'est que même il est dit à un endroit que Jésus ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire ils étaient croyants. C'était des croyants. Mais qui, par leur incrédulité, limitait l'action et l'œuvre de Jésus-Christ. L'Église aujourd'hui, c'est pas que le Seigneur ait changé. Le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Mais ce qui a changé, c'est nous, c'est l'Église. Et si aujourd'hui, eh bien, le Seigneur ne peut pas faire les miracles comme il faisait, bon, encore que quoi, même là, dans cette situation, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est d'avoir guéri quelques-uns. Il en a guéri quelques-uns, mais il aurait voulu faire beaucoup plus, voyez, mais à cause de leur incrédulité. Nous allons découvrir ce que c'est que l'incrédulité. Et elle a un visage qui est connu de tous, voyez, et qui doit, bien, dans notre culte personnel, eh bien, être dénoncé, et puis dire non, 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 Seigneur, non, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Alors, que se passe-t-il, on va dire, dans le chapitre 9 de l'évangile de Marc, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit, en poussant des cris, en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et ailleurs, il ajoute, « La prière et le jeûne. » Mais surtout, n'oublions pas, cette espèce-là ne peut sortir que si on cesse d'être incrédule. Alors, cesse d'être incrédule. Et là, dans ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur de lire ce matin, vous avez d'une part Jésus qui reproche, mais alors il a dû se mettre en colère avec les disciples, disant, race incrédule, race incrédule. Et puis, avec le Père, il a eu une toute autre attitude, parce que le Père dit, je crois, mais je suis incrédule. Ça veut dire, je crois, mais dans ma vie, il y a des zones, eh bien, qui ne croient pas. Il y a des endroits qui ne croient pas. Je crois, mais il y a des endroits de ma vie, qui ne te sont pas soumis, qui ne t'obéissent pas, et qui ne croient pas. C'est ça le problème. C'est que dans notre vie, l'incrédulité touche à des points précis. Et c'est pour ça que derrière le mot incrédulité, eh bien, se cache une réalité beaucoup plus précise que nous le pensons. Beaucoup de gens pensent que l'incrédulité consiste à nier Dieu ou à rejeter la divinité de Jésus-Christ. Mais non. L'incrédulité consiste à méconnaître les signes, les preuves, eh bien, que la parole de Dieu donne sur la puissance et sur l'amour de Dieu. Et ça s'adresse en premier lieu aux croyants. Et là, je donnerai un exemple. À qui est-il d'abord reproché cette incrédulité? Elle est tenace. Et du reste, Jésus ne se prive pas de la rappeler aux pharisiens en disant, vos pères, ont fait et font la même chose que vous. Vos pères ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu au mont Sinaï. Et ils sont restés incrédules. Ils ont vu ce que je l'ai fait pour eux. Ils n'étaient pas encore croyants. Ils n'avaient pas encore entendu parler de la loi de Dieu, parce qu'elle est venue bien après, que je les ai sortis du pays d'Égypte. Je ne vous ai pas sorti du pays d'Égypte en vous disant, vous allez croire, vous allez observer les lois de l'Éternel. Les lois de Dieu, les 10 commandements sont venus bien après. Sont venus bien après. Et c'est une erreur de croire que parce que je commence à mettre en pratique les 10 commandements, eh bien je suis un enfant de Dieu. Parce que tout commence par la grâce. Et Dieu a fait grâce au peuple, il a fait sortir du pays d'Égypte, il n'a rien fait. Et c'est seulement quand il a sauvé qu'il a fait connaître les 10 commandements. Il a fait entrer dans cette nouvelle alliance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus dit, oh, vous êtes comme vos pères. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers des 10 plaies d'Égypte. J'appellerais ça plutôt les 10 jugements sur le pays d'Égypte, dont ils ont été épargnés. Dieu les a sortis du pays d'Égypte. Ils ont vu les miracles. Et ils sont restés incrédules. Pourquoi? Les raisons, elles sont énumérées. Elles sont bien précises. Un, ils ont murmuré. Ils ont murmuré, critiqué, contesté. Et si vous voulez savoir ce que c'est que l'incrédulité, ça commence par là. Quand on critique, quand on murmure, quand on conteste. Et ils ont contesté avec Moïse. Ils ont dit, Moïse, c'est un homme. Mais Moïse ne pouvait rien faire sans l'autorité de Dieu. Et c'est en fait, Dieu dit, c'est avec moi que vous avez contesté. Et l'incrédulité, c'est ça la racine. C'est contester, murmurer, répliquer, ne pas être d'accord et être avec Dieu. Mais bien sûr, Dieu ne va pas parler comme ça à tout le monde. Il le fait au travers des instruments qu'il choisit. Et il le fait au travers, eh bien, de Moïse, d'Aaron et des anciens. Et contester avec eux, c'était contester avec Dieu lui-même. Puisque eux-mêmes avaient dit, non, surtout que Dieu ne nous parle pas. Nous avons peur et nous tremblons dès que nous entendons sa voix. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ils ont contesté avec Moïse. Ils ont contesté. Mais même Aaron a été conduit dans cette contestation. Parce que cette contestation, cette incrédulité, a gagné même Aaron et sa sœur, Myriam. Au point qu'elle est devenue lépreuse. C'est-à-dire que c'était la manifestation même du péché dans sa propre vie, sur son corps. Et ça faisait apparaître ce qu'il y avait dans son cœur. Soyons attentifs à cela, parce que l'incrédulité, c'est pas simplement de dire « je ne crois pas ceci, je ne crois pas en Dieu ». Non, c'est pas ça l'incrédulité. L'incrédulité se manifeste clairement. Par quoi? L'insoumission. Et l'insoumission s'est manifestée avec Dathan et Abiram qui ont fait une révolte, qui ont voulu faire un soulèvement, une sorte de révolution. Je dis, Dieu ne parle pas uniquement par Moïse. Et on sait comment ça s'est terminé. La révolte d'Abiram et de Dathan, ceux qui ont été mangés et dévorés par la terre qui s'est ouverte et qui les a engloutis. C'est là qu'on voit ce que c'est que l'incrédulité. Parce que souvent, nous, l'incrédule, finalement, il nous paraît presque des fois sympathique, et surtout parce qu'on a une mauvaise conception de ce que dit la Bible au sujet de l'incrédulité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, oh ben, c'est quelqu'un qui nie Jésus. Non. Un incrédule, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est vraiment le Seigneur dans l'Église. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est le Seigneur. C'est ça l'incrédule. Il le croit et il cache. Et il croit que parce que il dit Jésus-Christ est Seigneur, qu'il n'est pas incrédule. Si tu es un incrédule, lorsque tu dis Jésus-Christ est le Seigneur et que tu ne te soumets pas à sa volonté et que tu ne te soumets pas non plus à ceux qu'il a choisis. Les apôtres, mais c'est pas eux qui ont choisi, vous savez. Ils n'ont jamais voulu être apôtres. La preuve, c'est que eux-mêmes, Jésus leur a dit, vous êtes des incrédules. Vous êtes des incrédules. Mais, ensuite, s'opposer à eux, c'était s'opposer à Dieu et c'était devenir incrédule. Alors, voyez comme quoi ce passage nous touche directement. Parce que, eh bien, l'incrédulité produit toujours des divisions. Et le Seigneur me rappelait cette semaine, dit, en pensant à, on évoquait il y a quelques-uns, les choses extraordinaires que nous avons vécues, et puis, pouf, un petit groupe est parti, un petit groupe, quelques personnes sont parties, division, c'est-à-dire insoumission, rébellion, insoumission. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et qu'on voit constamment au cours de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est ce que les prophètes reprochent de la part du Seigneur à Israël. Et j'en donnerai un exemple tout à l'heure au sujet d'Ésaïe, comme je pourrais aussi ajouter Jérémie et Ézéchiel. Eh bien, cette insoumission produit quoi? Ben, c'est qu'on ne voit plus ce qu'on a vu. Et quand il y a cette incrédulité, ben, les choses glorieuses qui se sont passées, on ne les voit plus. Et quand il y a l'insoumission, quand il y a l'incrédulité pour nous, c'est-à-dire dans l'Église, eh bien, les choses glorieuses qu'on a connues ne sont que des souvenirs. C'est tout. Ce sont que des souvenirs. Et c'est dangereux. Et c'est pour ça que Dieu nous interpelle. Et il nous interpelle tous, personnellement. Il dit, où en es-tu? Est-ce que tu n'es pas et tu ne serais pas un incrédule, toi aussi? Lorsque tu contestes avec Dieu, alors tu le fais adroitement en disant « Non, je ne conteste pas avec Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. » Mais tu contestes avec ses serviteurs. Et quand tu contestes avec ses serviteurs, ben, tu es insoumis. Parce que c'est tellement plus facile de montrer qu'on est soumis à Dieu en étant insoumis, eh bien, à ceux qu'il a mandatés. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Que ça ne peut pas se faire dans le désordre. Et l'ordre, eh bien, c'est celui qui est écrit dans la parole de Dieu. Cet ordre, eh bien, c'est que Dieu nomme des personnes, appelle des personnes. Et ces personnes ont reçu une autorité. Les apôtres avaient reçu une autorité. Les diacres, les anciens ont une autorité. Quand elle est contestée, eh bien, je dirais, c'est l'incrédulité qui commence. C'est l'incrédulité qui commence dans les cœurs. Alors, on est un peu étonné de tout cela. Et l'apôtre, un autre exemple que je donnerai du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, je vous ai donné celui de Moïse. Mais je donnerai encore l'autre exemple, et je m'arrêterai à celui-là, c'est l'appel du prophète Ésaïe. Et je ne sais pas si vous avez jamais fait attention à cet appel, et je vais lire avec vous, je l'ai encore lu tout à l'heure, et cet appel, c'est curieux parce que il faut le comprendre, il faut être fou, eh bien, de l'entendre. Et je vais lire dans Ésaïe chapitre 6, dans le chapitre 53, c'est repris « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Mais dans le chapitre 6, voici ce que nous lisons. Après que Ésaïe ait eu la vision du Seigneur assis sur son trône, et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Le Seigneur lui parle, et au verset 9, il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est terrible. C'est-à-dire que le ministère d'Ésaïe est un ministère d'échec. Et Dieu lui dit d'avance, ils ne t'écouteront pas. Ils ne m'écouteront pas. Et il prévient qu'il n'aura aucun succès. Aucun succès. Et que ça ne dépendra pas d'Ésaïe. Nous reconnaissons tous son ministère. Et la preuve, c'est que même les Juifs, ceux qui ont failli, ont reconnu son ministère, puisque c'est dans la Bible. C'est encore dans la Bible. Mais Dieu le prévient. Et lui dit, ils n'écouteront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incrédules. Ils sont tellement incrédules que tout ce que tu leur diras, eh bien, cela passera par-dessus la tête. Pourquoi ? Eh bien, parce que du temps d'Ésaïe, eh bien, ils étaient comme du temps de Moïse, c'est-à-dire rebelles, désobéissants, insoumis, murmurants, contestants la parole de l'Éternel. Ils étaient vraiment incrédules. Eh bien, tu peux leur parler, tu peux même leur annoncer les choses précieuses que je vais te dire. Ils n'écouteront pas. Et il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de sursaut en Israël. Ce qui arrivera, c'est quoi ? Ils iront à Babylone. Ils seront déportés. Ils mourront dans la ville sainte. Ils seront mis à mort. Voilà. Voilà ce qui arrivera. Voilà. Voilà où mène l'incrédulité. Nous, on a l'impression que c'est pas grave. Que l'incrédulité, c'est pas grave. J'ai noté, je n'ai pas eu le temps de lire tous les passages où il est question de l'incrédulité, mais même l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, eh bien, demande au destinataire de cette lettre, prie pour que je sois délivré des incrédules. Oui. Priez pour que je sois délivré des incrédules. Et les incrédules, c'était quoi ? Mais c'était pas du tout les païens. C'était pas du tout ces Romains qui ne croyaient qu'aux idoles. Mais c'était les Juifs. Des Juifs qui s'opposaient à Jésus-Christ. Qui s'opposaient à la vérité. Priez pour moi que je sois délivré des incrédules. Il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que et c'est un bon point, dans un sens, à l'égard de ceux qui contestent. Et qui contestent quoi ? Le parler en langue. C'est-à-dire des croyants, des chrétiens, des gens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, des personnes qui se sont converties authentiquement. Et l'apôtre Paul dit ceci, les langues sont un signe pour les incrédules. C'est-à-dire pour les croyants, pour des chrétiens, mais qui ne veulent pas reconnaître, eh bien, les langues. Eh bien, c'est un signe pour eux. Pour les incrédules. C'est pas pour les gens du monde qui ne croient pas, qui n'ont jamais cru, les païens, non, pour les croyants. Ils sont incrédules. Ça va très loin, vous voyez, tout cela. Et je voudrais terminer avant de ne pas faire d'appel. C'est difficile de faire un appel parce que chacun d'entre nous doit s'examiner devant Dieu. Et je terminerai par simplement, mais je pose le problème tel que le Seigneur me l'a montré, c'est dans l'Apocalypse, le chapitre 21, et c'est assez frappant parce que il nous est dit là quelque chose qui nous surprend. Chapitre 21, verset 8, celui qui vaincra, verset 7, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, l'enfer. Et là, on trouve tout de suite après les lâches, ben les incrédules, c'est-à-dire des gens croyants, chrétiens, mais insoumis, insoumis, opposés, contestataires, contestants, révoltés, rebelles, on les trouve là, on les trouve en enfer. Ça m'a frappé, et c'est pour ça que ben, je vous en fais part. Et ce matin, peut-être ce sujet vous surprend. Moi, il m'a surpris. Et surtout, il nous amène à nous remettre en question. C'est Dieu qui, par sa parole, nous remet en question. Parce que il met le doigt sur ce qui, justement, nous gêne le plus. Et dont on ne veut pas tellement entendre parler. C'est tout ce qui concerne les relations avec Dieu, mais aussi avec notre prochain et avec ceux qui sont responsables. Et l'incrédulité, c'est justement dans l'Ancien Testament qu'on la voit bien définie et bien caractérisé au travers de toutes les avanies que Moïse a connues, toutes ces révoltes continuelles, ces murmures, cette contestation continuelle. Ben je comprends beaucoup mieux maintenant quand je lis, et vous l'avez lu comme moi, que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Ben, il fallait en avoir de la patience pour supporter tout ça. Il y avait mille et mille et mille une raison pour se mettre en colère. Et ça n'a pas raté. Une fois, il s'est mis en colère. Ça, c'est la seule fois. Et ça lui a coûté cher parce que ça lui a coûté l'entrée dans la terre promise. C'est grave. C'est grave. Et ce matin, eh bien, je vous partage simplement ça. Je vous dis, et que chacun d'entre vous regarde dans sa propre vie et dit, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis moi aussi un incrédule? Alors, si tu regardes que le mot, je me dis, non. Non, incrédule, c'est quelqu'un qui est insoumis. Quelqu'un qui est révolté, qui est rebelle, qui conteste, qui murmure. Ça, c'est un insoumis. C'est un incrédule. Que chacun d'entre vous, eh bien, se place devant le Seigneur. Et s'il est cela, eh bien, qu'il demande au Seigneur de l'en délivrer. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, lorsque cet homme s'écrie, je crois. Mais il croit. Il croit en Jésus, mais viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ce qui m'empêche, et il devait certainement y avoir quelque chose, parce que pour que le petit soit dans l'état où il est, possédé par un démon impur, il y a eu quelque chose dans la famille, il y a eu des histoires dans la famille, il y a eu des problèmes dans la famille, voilà. C'est clair, il a mélangé, et c'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu, c'est que il est entré dans la terre promise, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pactisé avec l'idolâtrie. C'est aussi une forme d'incrédulité. L'incrédulité, c'est, et on peut voir, c'est d'abord de faire un veau d'or, ensuite c'est de pactiser avec les idoles qui se trouvaient, les dieux idolâtres qui se trouvaient dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Et puis même, à un moment donné, ils vont même au-delà, c'est quoi? Bien, c'est dans le royaume du Nord, le royaume de Samarie, ben, ils ont deux veaux, celui de Bethel et de Dan. Alors, ils en créent un autre. Ils se créent un dieu mais à leur manière, un Dieu à leur façon. Ça, c'est l'incrédulité. Et ils gardent l'Ancien Testament, ils gardent les cinq livres de Moïse, on les garde. C'est ça l'incrédulité. C'est quelqu'un qui est croyant, qui est chrétien et qui ajoute quelque chose. Et qui ne se soumet pas à ce que Dieu demande, mais qui fait ce que Dieu ne demande pas. L'incrédulité. L'insoumission. C'est le mal qui ronge l'Église. Et il y a des légions d'incrédules dans l'Église. Je priais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, ben, il y a des légions d'incrédules dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église ne connaît pas le réveil. Et tant qu'on aura cette attitude-là, ben, il n'y aura pas de réveil. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et Dieu peut susciter des pasteurs, peut susciter des ministères, certains peuvent promettre la lune, mais d'autres seront plus sérieux pour dire il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Absolument rien. Sinon que tu prêcheras et tu n'auras aucun fruit. Et il n'y aura aucun fruit, comme ce fut le cas pour Esaïe, comme Jérémie. Tu n'auras aucun fruit à cause de leur incrédulité. Que nous soyons remis en question. Et si Jésus a béni cet homme qui a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour l'Église. Et je crois que c'est cela. Et c'est le message que moi je retiens, je dis, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est de dire, je crois Seigneur, je sais, je crois Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime vraiment de tout mon cœur, mais viens mon secours parce que je suis incrédule, c'est-à-dire je suis insoumis, je suis rebelle, je suis à critiquer, à contester, etc. Mais dis-le, confesse-le, parle-en au Seigneur. Et je suis persuadé que Dieu aussi dans sa grâce nous donnera comme pour ce garçon qui était lié par un esprit muet, la parole qui libère. Parce que l'enfant était libéré, il a parlé. Parlons au Seigneur. Ne restons pas muets sur ce point-là. Parlons-lui. Lui, Seigneur, non. Sur quelque chose, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux plus rester comme ça. Je ne veux pas rester comme ça. Je renonce à cela, vous voyez. Et à la croix, Jésus a versé son sang pour effacer ce que nous confessons. Mais il est aussi celui qui, sur la croix, nous a libérés de cette attitude. L'apôtre Paul appelle ça mourir. Mourir à soi-même. Mourir à la rébellion. Et moi, je dis, je vais vous dire quelque chose. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, dans l'église à Louveteau, est-ce qu'il y a des incrédules? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit parce que vous le savez. Vous voyez la réponse? Vous voyez la réponse? Mais Seigneur, dans l'église de Louveteau, y a-t-il des incrédules? Et même, il y a quelque chose qui m'a frappé, il m'a dit, souviens-toi, pour certains qui ont été incrédules, mais alors, pas subjectivement, mais objectivement, regarde ce qu'ils sont devenus. Il y a une parole qui m'est venue, que certains peut-être retrouveront, ils identifieront celui qui l'a prononcée, et la parole c'est, regarde. Ils adorent maintenant ce qu'ils ont brûlé et ils brûlent maintenant ce qu'ils ont adoré. Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est Rémi. Tiens, Rémi ici, c'est pas lui. Mais c'est Saint Rémi, celui qui a baptisé Clovis. Et il a dit, fier sycambre, tu vas maintenant brûler ce que tu as adoré et tu vas adorer ce que tu as brûlé. Mais moi, la parole qui me venait, c'est, et j'ai des exemples bien clairement dans la tête de personnes qui étaient là et qui priaient, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, ils ont envoyé tout ça par-dessus les moulins, comme on dit. Et ils sont en train, j'espère qu'ils peuvent encore se retourner, comme on dit, se convertir. Mais ils sont en train d'adorer à ce qu'ils avaient brûlé autrefois, avant de se convertir, quand ils sont convertis. Et de revenir et d'adorer, eh bien, les choses anciennes. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous parle. Je m'arrêterai là et je vais simplement bien vous inviter à prier avec moi. Parce que c'est un fardeau dans notre Église et soyez sûrs que c'est aussi un fardeau dans beaucoup d'Églises. Et Dieu est amour et il nous aime. Et si tu as découvert dans ton cœur, en écoutant, que tu es un incrédule ou que tu es une incrédule, bien Dieu, parce qu'il t'aime, ne te condamne pas, il ne te juge pas. Mais il ne veut pas que tu finisses dans les temps de feu et de soufre avec les incrédules. Mais il a un plan pour toi. Il a une vision pour toi. Il veut te bénir. Et ce matin, ce qu'il te demande, c'est d'abandonner. Ce qui te rend incrédule, ce qui fait que tu es incrédule. Et ça peut venir de loin, ça peut venir de ton enfance, ça peut venir de tes relations avec tes parents, ça peut venir aussi de ce que tu as entendu, des gens que tu as côtoyés, ça peut venir de loin. Veux-tu être délivré? Demande à Jésus. Veux-tu être délivré de cette insoumission, de cette contestation, de cette révolte dans ton cœur à l'égard des responsables qui empêchent que tu sois vraiment serviteur. Et si tu servais le Seigneur comme un vrai serviteur, comme une vraie servante, alors tu verrais des choses étonnantes. Tu verrais des choses étonnantes. Tu serais émerveillé. Alors, fais ton choix, ce matin. Renonce à ce qui rend incrédule, que tu as peut-être hérité du passé, de tes parents. Tu as hérité, eh bien, c'est pas cet héritage-là que tu dois conserver. Mais la parole de Dieu dit que nous avons part à un autre héritage. Et c'est cet héritage-là auquel tu dois te consacrer. Mais tu ne peux pas t'y consacrer si tu gardes l'ancien héritage. C'est un choix à faire.